Pierre Sabatier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de PrimeView. On va parler avec vous d'économie. Pour commencer, si vous voulez bien, on parle des États-Unis avec, bien sûr, on suit de près, comme les investisseurs, mais les économistes aussi, la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre point de vue, ce calendrier hein, de remontée des taux aux États-Unis est si évident que ça?
Il y a deux choses hein, pour la politique monétaire américaine. Vous avez ce qu'on appelle le quantitative easing, hein, ce dont on a tous parlé, à savoir concrètement la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine descend dans sa cave, émet des billets de banque et les donne à qui? À l'État ou aux organismes qui sont censés refinancer l'immobilier. Ça, c'est le quantitative easing. Le tapering dans lequel on est rentré, à savoir en gros la réduction de ce volume d'émissions monétaires pour acheter, en gros pour alimenter l'économie américaine en carburant pour qu'elle s'y avance plus vite, celle-ci est en train de se réduire. Ça, c'est la première étape. Elle va continuer de se réduire pour une raison très simple. Les États-Unis vont mieux. La croissance américaine est plus installée. Alors bien sûr, on n'est plus sur les 3 à 4% qu'on a connus par le passé. Je crois qu'il faut que tout le monde se dise que ces 3 à 4%-là sont du passé et seront très difficiles à les atteindre. Pourquoi? Parce que le substrat a changé, à savoir le vieillissement de nos populations nous offre un potentiel de croissance qui est moins fort. C'est vrai partout dans le monde, y compris aux États-Unis, même si c'est un peu moins vivace chez eux qu'ailleurs. Ça veut dire que le potentiel de croissance tourne autour sans doute de 1,5-2,5% au maximum. Les États-Unis tournent autour de ce montant, je dirais, de croissance aujourd'hui. Donc, il est naturel de réduire le carburant qu'on a injecté de manière artificielle dans l'économie, tout simplement parce que la voiture commence à s'auto-alimenter. Ça, c'est le premier pan. La notion de remontée des taux directeurs, elle sera pour plus tard et elle est, elle, à mon sens, beaucoup moins certaine. Tout simplement parce que, encore une fois, hein, le potentiel de croissance n'étant plus que de 2%, il est tout juste suffisant pour générer suffisamment d'emplois pour que l'économie américaine, je dirais, réponde aux attentes de la population, à savoir une situation proche du plein emploi avec suffisamment de richesses créées pour tout le monde et que pour tout le monde dans la société américaine, puisse en bénéficier.
Donc là, l'horizon 2015 évoqué, effectivement…
Je pense que sur la notion de taux d'intérêt ou de remontée des taux directeurs n'est pas une question d'avenir, puisque dans l'ensemble du monde, et le Japon nous l'a bien montré, hein, vous savez, hein, les Japonais sont tombés à zéro quasiment en taux directeur depuis la fin des années 90, le milieu, voire la fin des années 90, et depuis, n'ont jamais remonté leur taux d'intérêt. Lorsqu'on est dans une problématique de vieillissement de sa population avec des potentiels de croissance qui sont relativement faibles, remonter ces taux directeurs me semble relativement anachronique. C'est la raison pour laquelle 2015, 2016, 2017, peu importe, on peut remonter à 0,5, 0,75, 1%, mais les taux directeurs resteront bas. Et dans cette veine-là, les taux longs resteront bas, parce que c'est ce qui intéresse en fait l'économie réelle. L'économie réelle, ce n'est pas tellement le taux directeur, c'est le taux long, le taux à 10 ans, parce que c'est celui auquel vous allez emprunter pour acheter votre bien immobilier, c'est celui auquel l'entrepreneur va aller chercher de l'argent pour pouvoir investir, et ces taux-là vont rester fondamentalement bas pendant très longtemps, là encore pour une raison simple. Simplement parce que l'économie ne serait pas capable de supporter des taux d'intérêt qui seraient plus importants. Quand on a un potentiel de croissance relativement faible, naturellement, si les taux d'intérêt sont trop élevés par rapport à ça, ça, je dirais, dissuade l'ensemble des acteurs d'aller chercher de l'argent pour l'investir. On rentre dans un cercle vicieux dans lequel les États-Unis ne rentreront pas, à mon avis, au regard de leur capacité à avoir mené une très bonne politique économique et monétaire maintenant depuis 4 ou 5 ans.
Alors on s'est quand même posé des questions sur forcément dans cette période de taux bas, de bulles qui ont été créées. On voit effectivement sur un certain nombre de prix d'actifs immobiliers, notamment à certains endroits en tout cas. Oui. Il y a eu forcément des bulles, on ne les connaît peut-être pas encore toutes.
Oui, alors les bulles évidemment. C'est d'ailleurs le principal souci aujourd'hui des banques centrales, pas qu'américaines, à savoir on est tous descendus à peu près dans sa cave, la Banque centrale européenne moins que les autres, mais concrètement pour injecter du carburant artificiel. Donc on l'a injecté, malheureusement le problème des banques centrales c'est que cet argent qu'on a injecté c'est rarement recyclé dans l'économie réelle, elle n'a pas provoqué plus d'investissement, plus de consommation. Légèrement plus aux États-Unis, pas du tout en Europe ou au Japon encore aujourd'hui. Donc la vraie question c'est où a été dépensé cet argent essentiellement pour gonfler des bulles d'actifs. Donc on a bien de l'inflation du prix des actifs. Aux États-Unis on pense immédiatement au marché des actions. Hein, vous savez qu'on a, on casse jour après jour les plus hauts historiques, hein, à savoir qu'on a largement dépassé les plus hauts des années 2000 puis 2007. Donc on est effectivement sur des niveaux de valorisation qui sont probablement trop élevé au regard des fondamentaux, mais à la limite, Peu importe, le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est comment faire pour que l'économie, en fait, arrive à continuer à fonctionner de manière pérenne et remplir, en fait, cet objectif primordial aux États-Unis plus qu'ailleurs, qui est celui du plein emploi. Et ils ne sont pas très loin d'y arriver aujourd'hui. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça signifie ? Effectivement, on peut avoir le dégonflement de bulles d'actifs, comme sur les actions et comme ce qu'on avait connu au moment des années 2000, mais je ne crois pas une diffusion à l'économie réelle parce que la Banque centrale américaine veille au grain et dès qu'il y aura un risque de ce type, à savoir un ralentissement de l'économie réelle, elle réinjectera du carburant dans la machine.
Alors, vous parliez de la Banque centrale européenne, c'est vrai qu'elle, elle n'est pas dans ces mêmes dispositions par rapport en tout cas à la croissance. Clairement, elle s'occupe de l'inflation. Alors aujourd'hui, on pourrait dire plutôt de
la déflation.
De la déflation. On pourrait dire qu'il y a quelques années, le gouverneur de la Banque de France, vous avez parlé d'inflation et on ne l'a pas vraiment vu. Aujourd'hui, il se pose aussi des questions. Est-ce que la Banque centrale européenne va faire encore plus, c'est-à-dire va devenir peut-être, va faire ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine ?
Si c'est possible ? On regarde l'histoire, la réponse est clairement non, puisque son objectif est essentiellement la stabilité des prix, même si c'est totalement là encore anachronique. Les pressions déflationnistes se matérialisent aujourd'hui, mais notre métier en tant qu'économiste, c'est de pouvoir prévoir, c'est de prévenir. Et ça fait bien longtemps en fait que les pressions déflationnistes pouvaient être anticipées. On regarde un phénomène très simple, l'Europe est frappée de plein fouet par ce qu'a connu le Japon des années 90, à savoir un vieillissement très accéléré. Or, vous savez qu'avec le vieillissement de la population, de manière naturelle, qu'on soit américain, japonais, italien, allemand, français, espagnol, on consomme moins plus le temps passe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le potentiel d'augmentation de la consommation des ménages en Europe se réduit de plus en plus. Or, la consommation des ménages reste le pilier central de la création de richesse dans nos pays, entre 60 et 70% en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le potentiel de croissance naturel est en train de décroître très fortement. On passe de l'expansion naturelle à une phase plus proche de la stagnation où le potentiel de croissance en Europe tourne plus autour de 1% par an. Lorsqu'on n'a qu'un pour cent de croissance par an, imaginer avoir des problématiques inflationnistes relève totalement de l'utopie. Pourquoi ? L'inflation se crée à partir de quel moment ? Quand vous avez plus de demandes. Quand je dis qu'il y a peu de potentiel de consommation, c'est qu'il y a peu de potentiel pour que la demande devienne de plus en plus forte. S'il n'y a pas d'augmentation de la demande, il n'y a pas de raison qu'il y ait une inadéquation entre l'offre et la demande et que l'inflation surgisse. Au contraire, la vraie problématique aujourd'hui de l'Europe, voire du monde, c'est plus une problématique de surcapacité de production. À savoir qu'on a une grande capacité à produire, alors que la demande en face, elle, sans être pessimiste, progresse insuffisamment rapidement pour justement être en adéquation avec cette grande capacité de production.
Un mot pour terminer sur la Chine. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de questions sur l'économie chinoise et j'ai vu récemment, par exemple, que les crédits continuaient, je dirais, à être importants, quasiment de progression de crédit, quasiment deux fois la progression de la croissance chinoise. Donc, clairement, il y a encore des questions, des problématiques sur la croissance de cette économie.
Bien sûr, et surtout la fragilité. Est-ce qu'on est face à un colosse au pied d'argile ? C'est toujours la même question. Un, premièrement, difficulté d'avoir des chiffres fiables. Et vous savez, lorsqu'on est économiste, on ne peut construire des scénarios que sur la base de chiffres qu'on a à disposition. C'est un problème lorsqu'on aborde la question chinoise. La deuxième, elle est celle de, aujourd'hui, ils n'ont toujours pas trouvé en fait les moyens pour transformer ce fameux modèle de développement de l'extérieur, qui repose beaucoup sur les investissements, vers l'intérieur, à savoir vers la consommation de leur ménage. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas trouvé le chemin. La preuve en est, les derniers messages en termes de communication étaient lesquels ? Oui, nous souhaitons absolument transformer ce modèle de développement, sauf que les solutions qui ont été mises en place se sont trouvées exactement les mêmes que ce qu'on constate depuis 4 à 5 ans. Augmentation des voies ferrées construites. Concrètement, on ne sait faire en Chine aujourd'hui que soutenir la croissance via de l'investissement en infrastructure, en immobilier. Et ce que vous évoquez en termes de chiffre du crédit veut dire exactement la même chose. Depuis 5 à 6 ans, la Chine a adopté, enfin est passée du modèle allemand vers le modèle espagnol, à savoir qu'on subventionne sa croissance en distribuant beaucoup de crédits dans des projets essentiellement d'investissement en infrastructure, en capacité de production ou en immobilier résidentiel. Ça, bien entendu, ça ne sera pas durable, ça ne sera pas pérenne. Il faut avoir en tête que les Chinois disposent de moins en moins de marge de manœuvre pour poursuivre cette politique. Donc on arrive bientôt au bout de la course. La question, c'est trouveront-ils un chemin réformiste qui leur permettra d'éviter un accident de croissance plus violent que ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans le monde des experts.
Le fameux hard landing, parfois évoqué à plusieurs reprises.
Effectivement, on a un point A qu'on connaît, un modèle de développement qui est hérité des 15 dernières années, modèle allemand plus modèle espagnol. On a un point B, là aussi, qu'on connaît, qui serait un modèle qui repose plus sur la consommation des ménages. La question, c'est est-il possible d'aller de transformer un modèle aussi excessif d'un côté vers un modèle qui ne ressemble en rien à ce qu'il était initialement, sans accident ? Notre conviction forte, c'est que ça sera très très compliqué, très complexe, en sachant qu'en plus, ça réclamerait une remise en question extrêmement profonde des autorités en place. Et on sait qu'on n'est pas dans une démocratie et je ne sais pas si les autorités en place seront prêtes à lâcher, je dirais, suffisamment de lest pour justement arriver à mener à bien cette réforme, pourtant vitale pour le pays.
Merci Pierre Sabatier d'avoir été avec nous.
Merci.